Alain Baraton, nouvelle saison, toujours la main verte. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, très heureux de vous retrouver, vous, l'équipe, Patricia bien évidemment. Donc très très heureux de continuer avec vous à parler jardin.
Eh bien c'est un plaisir partagé, toujours vert j'allais dire, mais enfin c'est autre chose.
Oui c'est autre chose.
Alain Baraton, vous nous rappelez que Louis XIV est mort un 1er septembre en 1715.
Il avait 77 ans et contrairement à ce qui continue à se dire ou à s'écrire, l'annonce de son décès ne plongea pas le pays dans la tristesse mais au contraire dans la joie. On va même jusqu'à faire sortir son cercueil de sa dernière demeure Versailles pour éviter de voir le peuple danser et boire sur son passage.
Alors pourquoi nous parler, Alain, de la mort du roi? Quel est le rapport avec le jardin?
Vous allez comprendre. Le jardin à la française tient son inspiration du jardin italien et ce dernier ne cessera d'évoluer pour devenir baroque à la fin du XVIe siècle et c'est à cette époque que les rois rêvent pour leur château d'un parc sans égal et François Ier en est l'exemple parfait.
Et contrairement à une idée reçue, André Le Nôtre n'est pas l'inventeur du jardin à la française.
Quand on évoque ce style de jardin, deux noms viennent immédiatement à l'esprit, Versailles, et vous l'avez dit, André Le Nôtre. Pas un mot sur Jacques Boisseau de la Baraudière, et c'est injuste. C'est lui, le premier créateur des jardins de Versailles, ceux de Louis XIII bien évidemment, c'est lui qui va donc définir les principes du jardin régulier, développer ses théories sur les parterres, les pelouses et les bosquets. C'est Jacques Boisseau de la Baraudière ou de la Baraudrie, les deux termes se disent, qui va préciser les formes géométriques souvent carrées et rectangulaires, les symétries et les perspectives.
Mais alors pourquoi l'appelle-t-on jardin à la française?
À cette époque, on ne parle que de jardin régulier. Mais quand un nouveau jardin, le jardin anglais, devient à la mode, il est nommé à la française pour mieux le distinguer. À la mort de Louis XIV en 1715, on y arrive Eric, l'attrait pour le jardin français disparaît. Ce jardin symbolise beaucoup trop l'autorité et le pouvoir absolu du monarque. Ne dit-on pas en 1776, c'est le marquis de Girardin qui parle, que l'allée la plus fréquentée à Versailles est celle qui mène à la sortie. Alors c'est un peu excessif, j'en conviens. C'est le même homme qui écrit, je le cite, que le jardinier Le Nôtre qui fleurissait au dernier siècle acheva de massacrer la nature en assujettissant tout au compas de l'architecte.
Le jardin à la française serait-il mort comme Louis XIV un 1er septembre 1715?
Non. Il s'est simplement endormi et je constate d'ailleurs que depuis quelques années, il renaît de ses cendres. Regardez bien en ville, les nouveaux jardins, bien souvent, ils s'inspirent du jardin à la française. Alors ce jardin est souvent très très beau, mais il est un symbole d'autorité et de pouvoir et cette nouvelle mode des jardins m'inquiète parfois.
Hommage d'Alain Baraton ce matin à l'un de vos prédécesseurs, donc au château de Versailles, Jacques Boisseau de la Baraudière.
Grand monsieur.
Grand monsieur. Alain, vos conseils aux questions des auditeurs de France Inter. Ludovic, pour commencer. Ludovic vous demande, les fleurs de mon gardénia sèchent avant de s'ouvrir. Il vous demande pourquoi.
Le gardénia, c'est cette plante magnifique. Je crois que toutes les femmes de qualité ont reçu des gardénias au moins une fois.
Qualité, vous me direz que
non, je veux dire par là, ce sont des plantes qui coûtent relativement cher à l'achat.
C'est de pire en pire.
Mais non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, également, mais je veux dire par là que quand vous n'allez pas offrir un gardénia à une femme en vacances qui fait du camping, par exemple, parce que le gardénia a besoin d'une certaine atmosphère pour être conservé. C'est une plante en pot que l'on offre en pot pour une personne dans une caravane ou une toile. On veut offrir un bouquet de roses, une gerbe de tulipe éventuellement, mais pas de gardénia.
Au moins 150 mètres carrés pour le gardénia, c'est ça?
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas.
On a bien compris, on vous taquine, Alain.
Alors, le gardénia, c'est une plante qui est originaire des régions tropicales. C'est une plante qui n'aime pas le soleil direct, il faut le savoir. Mi-ombre, elle a besoin de lumière comme plante. Mais, le problème, c'est le taux d'humidité. Il faut qu'il y ait un énorme taux d'humidité, sinon les bourgeons, effectivement, sèchent et ne s'ouvrent pas. Alors, que faire? Tous les jours, je dis bien tous les jours, avec un pulvérisateur, eh bien, vous pulvérisez un petit peu d'eau sur la plante. Cela va l'encourager à ouvrir ses fleurs et à présenter ce qu'elle a de plus beau, ses fleurs bien évidemment. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que le camélia, beaucoup de nos auditeurs disent tiens c'est bizarre, ce qui se passe avec le gardénia à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur au printemps avec mon camélia, les bourgeons se forment et finalement ils ne s'ouvrent pas, ils sèchent et ils tombent. Là encore, problème d'humidité de l'atmosphère, on pulvérise et tout rentre dans l'ordre.
Marion a un souci avec son lilas, le lilas de son jardin. Il a perdu toutes ses feuilles durant les chaleurs de cet été. Est-ce que le lilas est mort pour autant ?
Alors, l'occasion de rappeler que là, il faut distinguer la chaleur et la canicule. Je disais ici même à l'antenne en juillet que vous avez beau boire quantité d'eau sur une plage, cela ne vous préservera pas des coups de soleil. Le soleil a été redoutable cette année. Les dégâts sont considérables sur quantité d'arbustes, sur les hêtres, sur les bouleaux, etc. Alors, que se passe-t-il? Quantité de végétaux aujourd'hui sont devenus roux, sont devenus secs. Que va-t-il se produire? Eh bien, je vais être très honnête. Je ne sais pas vraiment. Je crois que le mieux, c'est de ne pas trop se précipiter. Nous sommes à quelques semaines de l'automne. Peut-être que l'automne va permettre à la plante enfin de se reposer et de bien démarrer au printemps. Donc soyons prudents, ne couperions rien. Attendons le printemps prochain, même si j'ai quand même de grosses inquiétudes concernant quantité de végétaux.
Jade nous dit que ces pélargoniums produisent beaucoup de fleurs, mais assez peu de feuilles. Pourquoi ?
C'est dû à la sécheresse, là encore. Vous partez en vacances, vous avez les géraniums ou pélargoniums qui sont en pot sur votre terrasse, dans des pots. Et effectivement, la plante manque d'eau. Alors que fait-elle ? Eh bien, elle veut assurer une descendance. Et la descendance, c'est pas en produisant des feuilles, parce que ça ne permet que de vivre. Ce sont les fleurs qui vont donner des graines. Et les graines permettent à la plante d'assurer justement, une pérennité. Donc lorsque les géraniums produisent plus de fleurs, même de manière déraisonnable par rapport au feuillage, c'est que la plante sent qu'elle va mourir et il faut donc l'arroser immédiatement.
Brune vous demande, est-il encore possible de semer des radis ?
Il est toujours possible, mais ça n'a pas un grand intérêt. Mais non, parce que les radis, ce sont les petits radis qu'on sème au printemps. Ces radis que François-Régis Gaudry serait certainement d'accord avec mes propos. Ce sont ces radis printaniers qui craquent sous la dent et qui sont merveilleux. Ceux que l'on sème maintenant vont mettre du temps à pousser. Ils vont être filandreux, ils vont être souvent un petit peu durs. Non. Donc on sème les radis. Allez, avril, juillet, on ne va pas au-delà.
Un conseil lecture pour terminer cette séquence.
Non, c'est moi qui vous induis en erreur, je vous prie de m'en excuser. C'est une promenade. Ah. C'est la journée, je plaide coupable. Journée des plantes de Garlesquin, c'est dans le Finistère. C'est aujourd'hui et demain, une trentaine d'exposants, des dédicaces et en particulier celle avec Noémie Vialard que j'embrasse. C'est une femme d'exception, une patronne dans le domaine des jardins. Elle est connue de tous. Il y a aussi une conférence à 15h, Les fleurs d'automne du Japon par Sophie Leber. Alors c'est 3€ l'entrée, comme ça vous savez tout. C'est à Guerlesquin et c'est dans le Finistère.
Alain Baraton et sa main verte. Merci Alain et à demain.
À demain.